Bonsoir à tous, il est 20h et vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Ce soir, dans l'Happy Hour scientifique, on va parler de science et de musique avec Terence et Yuen du groupe de musique Pléiade. Alors restez à l'écoute.
L'Happy Hour scientifique.
Ah, c'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les deux.
Bienvenue, Munich.
La musique, cette discipline plutôt connue comme un moyen d'expression artistique, est aussi ancrée dans la science. Derrière ces sonorités musicales se cachent des notions de physique, avec des ondes mesurées en fréquence et en amplitude. Pendant cette émission, nous allons revenir justement sur cet aspect en parlant d'acoustique, mais aussi sur le rôle que peut jouer la musique sur nos souvenirs et de manière plus large dans les sciences. Aujourd'hui, pour en discuter, nous recevons le groupe de musique Pléiade, fondé en 2023. Terence, tu étais chercheur en neurologie et Yuen, tu étais ingénieur du son et tu es aujourd'hui musicien et arrangeur de son française et pop. En plus de la musique, vous faites de la vulgarisation scientifique en tant que membre du collectif Exalcia, mais aussi pour le festival Double Science qui s'est déroulé en 2023, plus exactement en juin dernier, où vous y avez joué au Grand Contrôle à Paris. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir à toutes et tous.
Et salut.
Et autour de la table, il y a Sacha pour l'interview.
Salut la team.
Ilona pour les gorgées de science.
Bonsoir tout le monde.
Et les autres personnes qui sont dans le studio, et Jocelyn qui nous fera une chronique sur l'acoustique, Alice également Alice qui nous fera un caps ou pas caps, et Cléo qui nous fera une chronique également. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va réviser quelques actualités scientifiques avec Ilona pour les gorgées de science.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Et merci Ellie pour l'introduction. Je me demandais en écrivant ces gorgées de science, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir trouver dans l'actualité scientifique en lien avec la musique ? Eh bien, il s'avère qu'il y a de la substance. Donc aujourd'hui, au programme, une étude sur l'évolution de la musique et une sur comment celle-ci peut être utilisée dans la recherche. Commençons par une étude publiée dans la revue Scientific Reports le 4 juillet. Des chercheurs ont examiné les mélodies des 5 chansons les plus populaires dans le classement de Billboard chaque année entre 1950 et 2023. En analysant le rythme et la hauteur des notes grâce à des modèles mathématiques, les chercheurs ont constaté que ces deux éléments avaient diminué en complexité de 30% au cours de la période étudiée. Les mélodies des chansons les plus populaires sont donc devenues de plus en plus simples au fil du temps. Mais mélodie plus simple ne veut pas nécessairement dire musique le plus simple. L'étude n'a pas pris en compte, par exemple, les complexités des motifs vocaux dans le rap, et les auteurs ont aussi mis en avant qu'il est possible que d'autres éléments, tels que la diversité des progressions d'accords, se soient complexifiés au cours du temps. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'une étude publiée le 17 juillet dans la revue Proceedings of the Royal Society, qui a utilisé la musique pour étudier le rougissement, ce mécanisme qui se met en place quand on est terriblement conscient de soi. Deux principales théories existent sur le pourquoi du rougissement. Darwin proposait qu'il survient lorsque nous pensons à l'apparence que nous donnons à ceux qui nous regardent. En imaginant et en interprétant la perception que les gens ont de nous dans une situation jugée embarrassante, on deviendrait rouge tomate. D'autres experts pensent plutôt que rougir est une réponse émotionnelle automatique à une exposition sociale soudaine, inattendue ou intense. Nous avons donc d'une part une théorie qui pense que rougir fait appel à des processus socio-cognitifs complexes et d'une autre une théorie qui attribue le rougissement à une réponse plus automatique. L'étude s'est donc penchée sur la question pour essayer de trancher entre ces deux. Et vous allez voir, le protocole expérimental pour aboutir aux conclusions est quelque peu diabolique. Les chercheurs ont recruté 40 participants sans donner le détail exact de l'expérience à laquelle ils prendraient part. Arrivés au labo, surprise. Ils devaient chanter au karaoké devant une caméra au choix, Let It Go, Hello de Adele, All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey ou All The Things She Said de Tattoo. Des chansons quelque peu difficiles pour un maximum d'embarras. Une semaine plus tard, leur cerveau a été scanné par IRM lorsque les participants regardaient soit l'enregistrement vidéo d'eux en train de chanter, soit celle d'un autre participant, et en parallèle, la température de leurs joues, un indicateur du rougissement, a aussi été mesurée. Sans trop de surprise, les gens rougissent plus facilement en regardant leur propre vidéo de karaoké par rapport à celle des autres. Mais surtout, le rougissement est associé à l'activité de régions cérébrales impliquées dans l'activation émotionnelle et l'attention. Mais rien n'indique la mise en œuvre de processus socio-cognitifs complexes qui impliqueraient l'activation d'autres régions cérébrales. Darwin n'avait donc vraisemblablement pas raison sur ce coup-là, et devenir écarlate serait une réponse plus automatique qu'il ne le pensait. Voilà ce qui rend le feu aux joues un peu moins flou.
Merci Ilona. Et maintenant, Terence et Yuen, on va passer au shot à l'invité avec Sacha pour vous mettre un peu en condition.
Et voilà, donc je vous rappelle le concept, on a une minute, je vais vous bombarder de questions, il faut répondre le plus rapidement possible. Et on va dire que vu que vous êtes deux, je pose une même question, Terence tu commences, Yuen ensuite.
Allez.
Vous êtes ok?
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Terence, Yuen, vous êtes en terrasse, c'est l'happy hour. Qu'est-ce que vous buvez?
Un mojito.
Picon.
Si vous deviez écouter qu'un seul artiste ou groupe jusqu'à la fin de votre vie, ce serait qui?
Rockin' V.
Gojira.
Plutôt festival ou club branché?
Festival.
Festival.
Le studio ou la scène?
Scène.
Scène.
C'est quoi votre dernière claque musicale?
Kiasmos en live. Désolé, je prends le devant.
Je suis perturbé.
Plutôt Einstein ou Rammstein?
Einstein.
Ouais, Einstein.
Einstein. Le café des sciences ou de la science dès le café?
Le café des sciences.
La science dès le café pour équilibrer.
Mais qui aurait pu prédire?
Quelle insulte faite.
Oui.
Faites de la science ou vous faites de la musique?
Les deux.
On arrive. Ok, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça mène les deux. Ok, bon, on va passer sur l'interview maintenant. Donc, Yuen et Terence, merci beaucoup d'être avec nous à l'Happy Hour Scientifique pour parler science et musique ce soir. Vous êtes tous les deux membres du groupe Pléiade, mais aussi vulgarisateurs scientifiques dans le collectif Exaltia, ce qui aura son importance dans votre conception musicale. Vous venez de sortir votre première EP qui s'appelle Coda, le 26 juin dernier, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Un projet que vous définissez à la croisée des chemins de l'électronica avec des influences d'artistes comme Rhône ou Fakir et de la poésie qui aborde des sujets de société actuels, notamment liés à la crise écologique. Alors peut-être pour commencer l'interview et avant de rentrer plus dans le projet, est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous vous connaissez tous les deux?
Ça va faire... 3 ans, j'allais dire 4 ans, mais en fait à chaque fois j'ai l'impression que le temps se dilate et qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, tellement les connexions entre nos moods artistiques et ce qu'on veut mettre en valeur scientifiquement sont évidentes. Mais ouais, non, ça va faire 3 ans là.
Et on s'est rencontrés grâce à la musique,
oui,
on peut le dire.
Vrai, c'est vrai.
Je suis allé voir une pièce de théâtre où il y avait la musique de Yuen, je savais pas encore que ça s'appelait Yuen, mais j'ai entendu la musique, j'étais en mode « Ah, pas mal ça », etc. Et je sentais qu'il y avait un potentiel sur de l'utiliser pour utiliser les émotions qu'il y avait à l'intérieur, ouais, pour parler de choses, hein, pour sensibiliser le public, etc. Et donc du coup je lui ai dit ça te dit pas de faire un projet où il y a ta musique et nous on parle de science par dessus?
Ouais, c'est une bonne idée. J'ai pas compris, l'idée c'est de mettre la musique en science ou la science en musique?
Ouais, viens, on fait ça.
Voilà, super, c'est ça, exactement. C'est exactement la conversation.
Et du coup, bah, voilà, est-ce que c'est à partir de ça qu'est né Pléiade? Quand est-ce que c'est né? Ou est-ce que, enfin, toi, du coup, t'avais déjà sorti des morceaux avant Yuen, je crois,
oui.
Que t'étais déjà dans le milieu de la musique, tu composes et t'arranges pour de la musique, pour du théâtre, on vient d'entendre, mais t'avais même eu un groupe de métal, j'ai vu ça.
Oh là là.
Qui
s'appelle du métal.
Beyond, mais alors j'arrive pas à le dire, Beyond Thy Sight.
Beyond Thy Sight. Okay, Thy, c'est your en version un peu vieille manière de parler anglais.
C'est BTS et, en fait. Hein.
BTS, hein, exactement. Ah, yeah. On fait de la K-pop, K-pop, mais on le maquille bien. Oui, en fait, je suis passé par plein d'horizons. J'ai commencé par faire de la musique sur scène et en studio pour de la chanson française. C'était cool, ça nous a ouvert quelques portes et ça m'a donné quelques contacts. Et moi, un de mes grands rêves, c'était de faire de la musique pour du documentaire, pour des jeux vidéo, pour des films, ce genre de choses. J'ai eu quelques opportunités, parmi lesquelles une metteuse en scène de pièces de science-fiction, qui est aussi autrice, qui s'appelle Lisa Bretzner, qui nous a mis en contact, Terence et moi. Et en fait, de fil en aiguille, y a un moment où on s'est réellement rencontrés, on s'est dit ouais, il faut qu'on fasse ça ensemble. Et à force de travailler sur des projets en commun, il y a un truc un peu de se dire enfin on écoute les mêmes choses, on a les mêmes idées, on a les mêmes envies, plutôt que de faire vraiment, pour le coup c'est ça qui a donné en 2023 Pléiade, c'est j'avais envie de me lancer dans un nouveau album ou un nouvel EP, peu importe, une nouvelle œuvre. Terence pour le coup est rentré sur mon label un peu perso, enfin label distrib, depuis un an et demi maintenant, et on s'est dit plutôt que de faire deux trucs en séparé, pourquoi on travaillerait pas directement ensemble sur Pléiade, quoi.
Okay. Et toi Terence, toi, t'as un parcours scientifique, t'as été ingénieur, donc notamment en culture cellulaire 3D à l'Institut Curie, sur les organoïdes, hein, si je me trompe pas. Et est-ce que tu faisais déjà de la musique à l'époque? Et sinon, comment t'es passé du monde de la recherche à faire de la musique?
C'est parce qu'il y a eu un entre-deux entre la recherche et la musique.
Raconte-nous
c'est,
un peu.
C'est le fait de perdre son temps à faire des vidéos de vulgarisation sur Internet. Et l'entre-deux, ça a été que quand moi j'étais dans la recherche, je trouvais ça trop cool ce qu'on faisait. Je me suis dit, ouais, on s'engage sur des sujets qui me paraissent ultra importants, il faut qu'on en parle en vidéo. Donc je faisais ça sur mon temps libre. Et après, quand on a commencé à faire des choses avec UN, on s'est dit, ah mais en fait, la musique, ça peut vraiment apporter un truc en plus. Au point qu'on s'est dit notamment, il n'y a rien de plus réécoutable que la musique. Plus que des vidéos de vulgarisation sur YouTube. Et donc du coup, il y avait un truc à aller chercher si on veut essayer de toucher des nouveaux publics. Qui ne sont pas forcément habitués à la vidéo, à la vulgarisation, etc. On s'est dit, il faut qu'on tente la musique, ça peut être trop intéressant d'essayer de faire passer des choses sur le monde, nos sensibilités, par la musique. Il fallait qu'on teste au moins, et donc voilà, le projet est né de là aussi.
Ok, et du coup, avant de parler un peu plus du projet et de vous, je propose qu'on écoute un extrait, le premier morceau de l'EP pour se mettre dans le bain, donc on écoute Flow en featuring avec Léa Bello.
Je veux garder le souvenir de ces étendues glacées, blanches, quasi inaccessibles, cachées au pôle et en altitude. Je rêve de banquises, bercées par les monts séraphiques qui la désignent au cours de sa formation. Nilas, Frasil, Stamik, Aounik, Flo. Emportée par les courants, harcelée par les vents, cernée de continents, la banquise arctique se brise sans cesse. S'entasse en humoque, véritable rouleau compresseur, capable de broyer un navire. Mais ce monstre blanc est bien plus menacé que menaçant. Les glaces fondent, dans la banquise, des gouttelettes salées se regroupent, dessinent des réseaux plus larges, forment des polynies. Et retourne lentement à l'océan.
Ok, ça donne hyper envie d'écouter la suite. Donc sur le morceau, on entend Léa Bello, qui est vidéaste et journaliste vulgarisatrice scientifique. Et on entend sur l'EP d'autres voix de vulgarisateurs tout au long. Comment elle est venue cette idée de travailler avec des vulgarisateurices sur un projet de musique? Comment ça vient de cette idée du coup, de mélanger du contenu de vulga avec de la musique?
Parce que nos références, on avait des références musicales au début, qui étaient déjà autour de cette idée-là, de mélanger voix et musique. Je peux peut-être en citer quelques-unes. Il y a notamment Fakir qui a fait un duo avec Camille Etienne, où ils ont discuté. Enfin, Camille pose un texte de sensibilité écologique sur le son de Fakir. Et je trouvais ça trop puissant. Enfin, on trouvait ça trop puissant parce que tu danses, donc tu es dans cette démarche de te laisser aller, de profiter, etc. Mais en même temps, tu ressors avec. Une sensibilité différente où tu apprends un truc ou alors sinon tu regardes le monde différemment parce que tu as les mots qui ont du sens. Et c'était trop puissant ça, ce côté avoir des textes qui posent dessus. Et en plus, c'est presque aussi plus facile que d'avoir de travailler sur des gens qui chantent, etc. Nous, c'était une première étape aussi plus facile de se dire bah, venez, on a des gens qu'on connaît qui ont des sensibilités incroyables sur l'espace, l'océan, etc. Et puis de les faire venir pour poser leur flow, quoi.
Merci Terence. On va juste continuer l'interview après une petite pause musicale qui est l'un de vos morceaux justement, c'est Sidereus Nucleus.
Vous êtes beaucoup plus âgé que vous ne le pensez. Les atomes qui composent votre corps sont les protagonistes d'une épopée qui s'étale sur près de 13,8 milliards d'années. L'hydrogène de vos molécules d'eau a quasiment vu naître l'univers. Le carbone de votre ADN a assisté à l'effeuillage d'un soleil passé. L'oxygène que vous respirez a survécu à l'explosion cataclysmique d'une étoile au cœur brisé. Quelle que soit son origine, chacun de ces atomes a erré des milliards d'années durant dans le vide interstellaire, avant d'être capturé par un système solaire en gestation. Pris en stop par un astéroïde ou une comète, ils ont fini par s'écraser sur une planète rocheuse au futur prometteur. Pendant plus de 4 milliards d'années, ces atomes ont été constamment recyclés par la machinerie interne de la Terre, intégrant tantôt des roches ou des volcans, l'atmosphère ou les océans. D'innombrables générations d'êtres vivants les ont mangés, digérés, respirés, altérés. Certains d'entre eux ont probablement fait partie des premières cellules de l'histoire de la vie. D'autres ont peut-être fait escale dans l'estomac d'un vélociraptor, sur les crocs d'un tigre à dents de sabre, ou dans les fleurs d'un cerisier du Japon. La totalité des atomes qui vous constituent sont entrés en vous par l'eau que vous buvez, par la nourriture que vous ingérez, par l'air que vous respirez.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, il est 20h17 et vous écoutez l'Happy Hour Scientifique.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Sacha, je te laisse reprendre l'interview pour en savoir encore plus sur le groupe Pléiade.
Et oui, et on est toujours avec Yuen et Terence du groupe Pléiade. Donc là, on vient d'entendre un autre vulgarisateur qui est Sébastien Carassou de la chaîne YouTube Sense of Wonder. Mais dans l'EP, il y a aussi Marie Trébert de la boîte à curiosité et Simon Rondeau de la chaîne YouTube Melvac. Vous-même, vous faites partie d'un collectif de vulgarisation, on le disait en intro, qui s'appelle Exaltia, anciennement Explorers, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous connaissiez tous ces vulgarisateurs avant ou les connexions elles se sont faites juste pour ce projet?
Bah, c'est avant tout des bons amis, des très très bons amis, ça c'est évident. En fait on fait partie d'un petit collectif entre nous, alors il y a le collectif Exaltia auquel on fait partie, mais entre nous on est aussi des gens qui font de la vulgarisation, donc on se connaît aussi et on avait déjà cette envie de faire des choses autour des émotions, de l'art, etc., sur repenser un peu notre manière de partager les sciences. Et donc, on se connaissait, donc c'est pour ça qu'on les a engagés en disant « Venez avec nous, on a un petit projet sympa, ça pourrait vous plaire. » Et on savait qu'ils avaient aussi... Enfin, on les a choisis parce que leurs voix sont incroyables. Mmh, que ce soit ouais, Léa, vrai. Sébastien qu'on a entendu, mais allez écouter les autres. Leurs voix sont incroyables. Leurs sensibilités aussi sont très fortes, chacun, chacune, pour leur thème. Et donc, du coup, c'est à chaque fois des petits univers qu'on explore avec eux.
Okay. Et comment ça se passe, du coup, concrètement, pour mélanger la vulga en la rendant poétique, engagée sur des questions écologiques, avec la musique? Est-ce que vos guests, ils viennent avec leur texte et vous composez dessus? Ou alors, est-ce que tout le processus créatif se fait ensemble?
Non, mais...
Révèle-nous tes secrets.
Justement, je veux faire un peu mon panoramique, c'est pas donner la recette de la potion magique. Bon, après, c'est très présomptueux de dire potion magique au stade où on en est, parce que ça reste encore très balbutiant, mais... Non, en fait, c'est vraiment un travail main dans la main. On propose des prods, mais on les réarrange selon aussi les textes qui sont envoyés. Il y a une liberté totale sur l'écriture de leur côté, parce qu'on souhaite que ça leur ressemble, que ça ressemble à ce qu'on partage aussi ensemble. On n'a aucune imposition là-dessus et je crois que c'est ça qui fait aussi la force émotionnelle de ces sons-là. Je vous invite très très fortement à aller découvrir du coup La Traversée, le morceau avec Marie qu'elle a écrit en étant sur la goélette Si je me trompe pas, c'était Tara.
C'était
Mira City. C'était Mira City. En ce moment, elle est sur la goélette de Tara, mais elle était sur la goélette de Mira City, donc en Méditerranée. Une des premières nuits, elle a passé à l'écrire effectivement ce texte-là parce qu'elle savait qu'elle allait travailler avec nous sur le projet, mais elle voulait pas utiliser quelque chose qu'elle avait déjà écrit vu qu'elle est aussi autrice de livres de vulgarisation scientifique. Et en fait, de fait, il y a quelque chose qui est sorti qui était très évident, très immédiat, qui transpirait ses émotions d'une part immédiate, mais aussi de tout ce qu'elle essaye de faire passer en général dans sa vulgarisation. Et du coup, on essaie de mettre aucun frein à ça, pour aucun de nos invités d'ailleurs. Et en fait, la musique vient accompagner effectivement ces textes-là, mais elle existe avant même que, généralement, ils commencent à écrire. Et en fait, c'est une fusion qui se met en place petit à petit. Ils choisissent... d'une certaine manière un univers musical sur lequel on a déjà pré-travaillé et qui pourrait coller à ce qu'ils aiment bien faire musicalement, et petit à petit en fait ça crée une vraie fusion, un vrai morceau entier.
Ok, ouais, il y a beaucoup d'échanges entre vous, et du coup tout au long du projet vous abordez des thèmes qui sont en rapport avec l'écologie, en parlant de l'océan, de la fonte des glaces dans Flo, de la biodiversité, de la crise climatique, enfin toutes ces questions-là. On ressent vraiment que, du coup, qu'il y a eu une envie importante de transmettre une connexion forte avec les écosystèmes, le vivant, le cosmos, avec Sébastien Carassou. Ça vient d'où cette envie de mettre ces thèmes en avant là?
Parce que je crois qu'il faut qu'on se bouge les fesses pour sauver la planète. Et en fait, nous, on est aussi juste motivés par cette envie de s'engager. Et donc, quelque part, il y a ce côté musical, il y a ce côté scientifique, mais il y a ce côté engagé qui est important pour nous. Parce qu'en fait, c'est juste des thématiques qui sont, en tant que nous, pour faire de la vulgarisation, qui sont genre, notre quotidien. Donc, c'était important de pouvoir les mettre en lumière. Ça nous semblait intéressant, voilà, et très important de les mettre au premier plan.
S'il y a bien un endroit où actuellement la vulgarisation ne se fait pas, c'est sur les terrains de divertissement événementiel, en fait. Enfin, on parle de vulgarisation, mais même en termes d'écologie, le nombre de festivals, d'événements qui sont liés à tout ça, qui soit prônent les valeurs, soit sont actifs dessus, soit invitent des personnes qui sont liées à ça. Je veux dire, c'est très minime. On parle des systèmes mainstream. C'est pas un gros mot, c'est une réalité. Des systèmes qui sont très suivis, hein, qui ont un flux colossal de personnes qui écoutent, qui regardent. Et ce sont des flux qui ont une grande influence. Ces flux d'influence n'ouvrent pas ces écosystèmes. En tout cas, pour la plupart, sont pas réticents, mais n'arrivent pas à créer quelque chose qui soit à la fois de fait lié à leurs valeurs. Et donc souvent, ça amène à des absences de collaboration entre des artistes et eux, soit autres. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, la scène, hein, les festivals, est-ce qu'on peut ensemble, potentiellement autour de cette table, citer plus de 5 groupes potentiellement même français qui se veulent actifs sur ces valeurs-là? Il y en a quelques-uns, hein. Là, il y a Chaka Pong qui a fait une très très grosse communication cette année. Gojira, dont je parlais tout à l'heure, qui est un groupe aussi de métal qui se veut, depuis les années 90, orienté autour de ça. Au-delà de la sphère rock et métal qui se veut peut-être plus sulfureuse et revendicative, il y en a aussi d'autres, hein. Je veux dire Fakir qui travaille avec Camille Etienne, encore une fois, hein, c'est un excellent exemple de comment la pop et l'électro peuvent agir dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est rarissime, en fait, finalement, des projets qui prônent ces valeurs-là, ou en tout cas qui en parlent, pas forcément de manière comment dire, imposée. Enfin, on cherche pas non plus à faire en sorte que les gens se mettent en action parce qu'on leur propose un thème. C'est une manière juste de sensibiliser, et les projets qui sensibilisent de manière active sont assez peu nombreux finalement sur la scène en elle-même, qui est pas la scène, l'univers musical, mais plutôt juste même le spectacle vivant, la scène en elle-même musicale, quoi.
Ouais, c'est plutôt d'apporter une réflexion autour de ça. Et d'ailleurs, on va s'écouter un autre extrait qui est Dérive avec Simon Rondeau.
Cette tranquillité primordiale est aujourd'hui compromise par des monstres mécaniques à la bêtise sans limite. Par un plastique globe-trotteur, une température qui monte, une banquise qui chute. Par une acidité croissante, un brouhaha incessant, une extinction en marche. Cet effondrement. Quelle insulte faite aux millions de scientifiques qui se sont cassés la voix pour nous avertir. Arriverez-vous encore à rester muet ?
Ok, dans ce morceau, du coup, qui est vraiment, moi, c'est un de mes préférés, il est vraiment super. On aura reconnu la moquerie un peu des discours déconnectés d'un certain Emmanuel dont on taira le nom. Mais surtout, il y a une envie de combattre, de ne pas rester muet face à la crise en cours, comme on disait jusqu'avant. Du coup, vous, comment vous intégrez à cette manière et cette réflexion qui est politique, en fait, de faire de la vulgarisation scientifique? Est-ce que ce n'est pas un frein à certains, voilà, hein, une ouverture à un plus grand public?
Ah bah, mais en fait, de manière très... c'est presque la base pour nous. On conçoit la vulgarisation comme étant une interface entre la complexité du monde, les sciences, comment on fonctionne en tant que société, etc., et le grand public, et notamment les prises de décision politiques, mais au sens noble du terme, au sens de la chose politique, comment on fonctionne en tant que communauté et collectif. Donc, si on prend la vulgarisation comme étant cette interface-là, eh ben, on va essayer de faire un maximum de ponts pour que les deux entités se parlent, la complexité du monde et le grand public. Et donc voilà, nous, c'était quelque part apporter notre pierre à l'édifice par rapport à ça, en ouvrant les ponts, en essayant de montrer aux gens que faire de la science, ça peut être cool, parce qu'on le raconte en musique, voilà, ce genre de choses, quoi.
Okay. Après, de fait, l'art est politique, la science l'est aussi. Enfin, c'est un truc qu'on oublie beaucoup, et là, avec les dernières législatives qu'on a pu avoir, on oublie régulièrement que la science est politique, que les vulgarisateurs comme les chercheurs ont leur droit de parole là-dessus. Et honnêtement, maintenant qu'on a passé ça, mais même avant, il est bon de le rappeler, quel que soit le domaine dans lequel les gens s'expriment, à partir du moment où ils s'expriment, c'est d'une certaine manière politique. Enfin, on ne peut pas enlever cette chose-là.
Ouais, bah, de toute façon, ouais. Toute prise de parole publique est politique, et la vulgarisation n'est pas exempte du reste, quoi. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour l'interview, ou est-ce que ça va passer sur des chroniques, là?
Non, je suis désolée, on va devoir écouter Jocelyn qui va nous faire...
Oh, ça va être super.
Qui va nous faire une chronique sur... Enfin, plutôt nous parler d'analyse des voix.
Oui, analyse acoustique. Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des chanteurs, chanteuses dont vous pourriez dire qu'ils ont une voix pure, un son pur?
Adèle.
Céline Dion.
C'est compliqué comme question.
Oui, c'est assez particulier comme terme. C'est un terme élogieux que l'on entend parfois en art, en musique, pour désigner quelque chose qu'on trouve beau, limpide, un son clair et mélodieux. Mais il faut savoir que ce terme, son pur, a aussi un sens très précis en acoustique, la discipline qui étudie les sons. Alors si ça ne vous dérange pas, je vous propose de faire un petit tour dans le monde de la physique des sons et de vous intéresser à cette question: qu'est-ce qu'un son pur? Et déjà, qu'est-ce qu'un son? Donc un son, c'est une onde. Dans le cas du son, c'est une onde mécanique, une énergie mécanique qui se transmet à travers la matière. Donc ce n'est pas la matière qui se déplace, elle reste sur place, elle vibre. Et l'énergie, elle, est transmise de matière en matière, de particule en particule. Donc comme pour les vagues, par exemple, si vous mettez un canard en plastique au milieu de la mer, il va monter et descendre au gré des vagues, mais il ne va pas forcément se déplacer avec elles. Donc si la matière bouge, on va plutôt parler de courant, courant d'eau, courant d'air. Et c'est une énergie qui se déplace, on va parler d'ondes. Donc, si vous entendez un chanteur, Adèle ou autre, vous entendez des vibrations, en fait, qui partent de ses cordes vocales et qui sont transmises dans l'air jusqu'à nous. Des ondes, on en capte de partout, et celles qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, en tout cas pour moi, ce sont celles qui se répètent. Car quand une même onde passe à l'identique dans notre oreille, notre cerveau remarque la répétition et il attribue une hauteur, en fonction de la fréquence du nombre de vibrations par seconde. Donc si vous entendez un « la », qu'on dit 440, cela signifie que l'air a vibré 440 fois dans votre oreille en une seconde. Et s'il y a une seule vibration parfaitement régulière, alors on parle de son pur. Un exemple, un autre, et encore un autre. Donc ça, ce sont des ondes pures, simples, régulières. Pas très intéressant, non ? C'est même un peu agressif à l'oreille, et c'est normal car notre oreille n'est pas habituée. Dans la nature, ça n'existe pas vraiment, il n'y a pas de vibration aussi simple et régulière. Un peu comme on a rarement une zone de couleur monochrome ou une lumière parfaitement unie. Dans la nature, les phénomènes sont beaucoup trop complexes pour obtenir des sons aussi simples. Donc quand on tombe dessus, on entend que ça sonne artificiel. Le son est comme dépouillé. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces sons purs ou simples, on peut dire les deux, peuvent être combinés entre eux. Et là, on obtient ce que l'on appelle des sons complexes. Ce sont des sons que vous entendez au quotidien. Car oui, derrière chaque son, vous pouvez déterminer une hauteur, il y a en réalité parfois des dizaines, voire centaines de sons simples. Alors pour vous montrer, je me suis livré à une petite expérience. Nous allons reprendre les sons purs que nous venons d'entendre, exactement les mêmes, et en rajouter quelques-uns. Alors ça s'entend peut-être pas très bien, mais on commence à avoir un début de voix humaine, parce que ce sont des ondes que j'ai tirées de ma propre voix. Je sais pas exactement quand ça donne dans vos casques ou autres. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé ma voix pour retrouver le plus d'ondes possibles qui la composent, et je l'ai ensuite reconstituée artificiellement en cumulant des ondes simples. Un peu comme quand on passe de la lumière dans un prisme et qu'on voit l'arc-en-ciel qui le compose, on peut théoriquement recréer la lumière originelle à partir des couleurs obtenues. Tenez, je vous ai fait un autre petit montage, c'est exactement le même extrait, mais avec ma voix casée au milieu pour que vous voyez d'où j'ai tiré ces ondes. Je ne sais pas si on l'entend très bien. On fait avec les moyens du bord après. Hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que donc dans notre vie de tous les jours, on entend toutes ces ondes simples, mais on ne les distingue pas forcément entre elles. Un peu comme on peut reconnaître un plat sans en deviner les ingrédients, on peut reconnaître et distinguer des sons simples et des sons complexes pardon, sans comprendre justement les sons simples qui la composent. Après, ça s'apprend avec la musique, par exemple. Donc notre cerveau a une formidable capacité d'analyse puisqu'il traite en continu des centaines d'ondes qui peuvent elles-mêmes vibrer des milliers de fois par seconde. Et c'est en partie cette répartition des ondes pures qui fait que l'on distingue la voix de nos amis, de celle de nos parents ou du miaulement de notre chat, par exemple. Donc la prochaine fois que vous écouterez de la musique, aussi belle et chaleureuse soit-elle, dites-vous qu'en fait, elle est composée de dizaines, voire de centaines de petites ondes pures comme celle-ci. Donc pour terminer, j'aimerais vous présenter des chanteurs particuliers qui s'amusent justement à jouer sur ces ondes contenues dans leur voix. Ce sont les chanteurs diphoniques. Donc le son que vous allez entendre est chanté par un grand musicien mongol. Et vous allez entendre comme il va passer de sa voix normale à une amplifiée dans les aigus, puis en résonance dans les graves. Donc le chanteur est très connu, alors je vais essayer de prononcer son nom, il s'appelle Dandar Vainting Engyargal, mais vous pouvez l'appeler Epi Mongol, c'est son nom sur internet pour le retrouver, tout le monde l'appelle comme ça, c'est son nom de scène.
Il est dispo pour un feat avec Pléiade ou pas?
Je sais pas, je sais qu'il est déjà passé à Nanterre Université il y a pas longtemps, okay. Il fait des concerts régulièrement en France et en Europe, mais voilà. Et oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sons aigus qu'on entend, ces sifflements, ils sont contenus dans sa voix, et en fait, toutes nos voix, nous tous, contiennent ces sifflements aigus, c'est juste que lui, il est capable de les faire entrer en résonance et de les faire ressortir.
Bah, voilà. Merci Jocelyn, tu nous as fait voyager là, vraiment. Et du coup, on va reprendre la discussion, justement, on va discuter de ce qu'on a pensé de cette chronique. Est-ce que vous faites ça dans votre groupe?
Alors,
la démo, s'il vous plaît.
La démo. Alors, c'est vraiment sûrement la meilleure explication que j'ai eue, on va dire vulgarisée, pour ce qu'on appelle donc les fréquences harmoniques et disharmoniques. Bravo.
Bah, merci.
Mais franchement,
je t'ai dit qu'au moins vous pourrez vérifier si je dis une bêtise.
Ah non, c'est franchement, c'est très cool. Effectivement, là, je pense qu'on a eu un bon résumé de comment on constitue un timbre d'instrument. Vu que c'est ça qui fait la différence, c'est les questions des fréquences qui vont être à des volumes plus ou moins importants. Hein, quand on a entendu ta voix avec tout le spectre qui s'ouvre petit à petit, chaque harmonique qui vient créer de plus en plus la voix humaine, c'est génial. Alors, en plus de ça, ce qu'on a entendu, c'est du throat singing, hein, le chant de gorge. Qui vient effectivement d'Asie mineure et d'Asie centrale. C'est génial comme type de truc, parce qu'en plus de ça, on parle d'acoustique de locale, vu que c'est la position de la bouche et de la langue qui vont changer les harmonies qu'on va entendre. Mais c'est trop bien de parler de ça dans une émission comme celle-ci.
Ah, merci Jocelyn. J'attendais que ça.
Bravo Jocelyn, c'était incroyable, vraiment j'ai kiffé. Alors est-ce qu'on fait ça dans Pléiade? Non. Par contre, dans Beyond, dont on parlait il y a quelques minutes, j'ai posé quelques voix.
As-tu chanté dedans aussi?
Alors, c'est pas moi, c'est un mec qui s'appelle Valentin Verset qui était le chanteur principal. Sa technique, c'est ce qu'on appelle du coup du guttural et du ice cream, qui n'a rien à voir avec la glace en anglais, hein, c'est juste cri aigu. Après, il y a d'autres techniques effectivement qu'on emploie pour créer des dimensions vocales un peu différentes. Le guttural a plein de spectres. Quand on écoute par exemple une personne comme Miley Cyrus, elle emploie même du fry, hein, c'est très employé dans le langage américain, ce truc où on fait un peu comme ça quand on parle. Mais en fait, en l'amplifiant, ça crée aussi une forme de scream. Et puis il y a le yell, hein, qui est littéralement le truc qui est le plus près de juste quand on gueule sur son enfant parce qu'on n'est pas content et que c'est pas justifié. Arrêtez de gueuler sur vos enfants pour rien, ça sert à rien, merci à tous. Mais oui, effectivement, c'est fou comme... Il y a deux instruments comme ça qui sont très très pleins de fréquences qu'on dit partielles ou harmoniques, hein, qui permettent du coup de moduler, de créer d'autres instruments avec. Il y a le piano et la voix. La voix, c'est clairement ce qu'il y a de plus riche en termes de spectre fréquentiel. Le piano est pas mal aussi, vu qu'il a réussi quand même à donner comme sous-instrument, en tout cas comme instrument qui s'approche de son spectre, le clavecin, les claviers électriques, énormément de synthétiseurs. Mais c'est fou ce qu'on est capable de faire justement avec le son, et généralement on ne suspecte pas quand on écoute de la musique, mais bah oui, en fait, faut pas oublier que in fine, c'est ce qu'on appelle un bruit blanc, c'est-à-dire toutes les fréquences qui existent sur le spectre audible qui sont envoyées à fond, et en fait on taille juste dedans des encoches, et ces encoches vont permettre de créer un son harmonique ou musical. Donc merci pour ce résumé incroyable, Jocelyn, parce que franchement c'était peut-être, je vous invite à le réécouter si vous n'avez pas tout compris, mais c'est limpide. Bravo.
Merci beaucoup.
Sa chronique fait l'unanimité dans le studio.
De mon côté, en tout cas, c'est sûr.
Non, c'est vrai que c'était cool.
Oh, ça me va, ça me suffit.
Et du coup, bah, en parlant de voix, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez prévu de travailler avec d'autres voix de vulgarisatrices bientôt sur d'autres projets? Est-ce qu'on peut avoir des petits teasings?
Spoil. T'as le droit.
Tu nous payes combien?
Je te paye une énorme pinte à la sortie.
Ah ben ça, c'est pas un happy hour pour rien.
on a des idées, mais évidemment, on va les garder pour nous. Parce que déjà, il faut qu'on fasse un peu de teasing pour la suite.
Je pense qu'il y a au moins deux feats qu'on peut potentiellement préannoncer.
On en fait un chacun?
Tu commences.
Non, enfin, on fait pas un feat chacun. Genre on en dit un chacun.
Vas-y, commence.
Parce que là, on est en train de bâtiment le préparer. On veut en faire un avec notre cher acolyte, j'allais dire. Notre frère, quoi. Renaud, qui est le troisième de l'équipe initiale Exaltia. Lui, il a une thèse incroyable en patho-épigénétique. Donc, il a mélangé la pathologie et ce qui se passe dans nos cellules quand l'ADN s'exprime. Je ne rentre pas dans le détail, promis.
Il faudrait une émission entière.
Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on voulait lui proposer un concept de son Pléiade autour du concept d'ADN et de génétique. Et de cette idée de se dire comment ça sonne un ADN. Si on veut faire comprendre la structure, etc., ce côté un peu double hélice et compagnie, est-ce qu'on le danse? Voilà, il y a tout à penser. Et juste, tu vois, c'est presque un kiff musical qu'on voulait faire avec Renaud, mais on va l'explorer. Et peut-être que si jamais vous traînez à Nantes, aux Utopiales en fin d'année, peut-être que le son pourrait être joué. Peut-être.
Je suis désolé, mais pour le teasing, on va s'arrêter là.
Oh,
tu le feras pas.
Tant pis.
Il faudra suivre sur les plateformes.
On va faire une petite pause, justement, musicale pour écouter Give Life Back to Music de Daft Punk. vous êtes... Wow. Allez, c'est parti, on reprend. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Il est 20h42 et presque 42. Et vous écoutez l'Happy Hour Scientifique.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Pour cette dernière partie d'émission ensemble, on va reprendre avec Léo qui va nous parler du lien entre musique, souvenirs et mémoire.
Merci Ellie pour l'introduction. Quand on écoute une musique, les premières notes nous plongent souvent dans un souvenir. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Et ça fonctionne aussi pour une mélodie que l'on n'a pas entendue depuis longtemps. Dès les premières notes, notre cerveau nous rappelle où nous l'avons écoutée, avec qui et les paroles qui la composent. Moi, par exemple, quand j'écoute « Laissez-moi danser » de Dalida, je pense à mon enfance et au moment où je l'écoutais avec ma mère dans le salon.
C'est un peu comme si on avait tous notre Madeleine de Proust de la musique.
Oui, en quelque sorte. En fait, le lien entre musique et souvenir, il est assez étroit et il a été beaucoup étudié par les scientifiques. Plusieurs composantes de notre système nésique sont sollicitées par l'écoute des chansons. Quand on maintient une mélodie temporairement en tête, on fait appel à notre mémoire de travail. Moi, quand je me rappelle dans quel contexte j'ai écouté Dalida, je fais appel à ma mémoire épisodique. C'est celle qui nous permet de nous situer dans le temps et dans l'espace. Et quand j'identifie « Laissez-moi danser » comme un son familier, bah ça, c'est grâce à ma mémoire sémantique. Vous, si vous reconnaissez la répartition des notes d'une pièce musicale, c'est votre mémoire perceptive qui fait le boulot. Par contre, c'est grâce à la mémoire procédurale que l'on peut jouer d'un instrument de manière automatique. Bon, après, en ce qui me concerne, ça ne va pas jusque-là.
Pour les amateurs de musique et les musiciens comme Yuen et Terence, est-ce que ça se passe différemment ?
En fait, l'activité musicale active toutes les mémoires, surtout lorsqu'elle est pratiquée par un chanteur ou un instrumentiste. Pour le démontrer, des chercheurs ont étudié les zones cérébrales activées lorsque l'on écoute un morceau. Chez les professionnels de musique, des zones supplémentaires sont mises en évidence. En fait, l'analyse réalisée par le cerveau dit « musicien », entre guillemets, elle est plus riche, plus complexe. En fait, c'est normal, elle doit combiner des stimulus différents, à la fois visuels, comme le nom des notes, leur portée, auditives évidemment avec les sons, mais aussi tactiles, comme le toucher du piano, la pression de l'archet sur les cordes. Pour coordonner tout ça, il faut que les aires cérébrales impliquées dans différentes fonctions dialoguent. C'est ce que démontre en fait l'étude d'imagerie. Chez les musiciens, il y a une vraie réorganisation fonctionnelle pour intégrer le plus d'informations sensorielles possible.
Est-ce que l'on pourrait utiliser la musique pour stimuler l'apprentissage par exemple ?
Ouais, c'est possible. Et en fait sûrement même dès le plus jeune âge, comme chez les bébés. La littérature montre qu'elle accompagne le processus d'apprentissage du langage. Les réseaux neuronaux, impliqués dans le langage, seraient proches de ceux impliqués dans la musique. Alors, en effet, le bébé ne joue pas de la guitare à 3 mois, mais il a en quelque sorte déjà une capacité pour musicaliser les sons. Une étude qui s'est déroulée à l'Institut Marquez en Espagne montre même que le fœtus répond davantage à la mélodie qu'au langage.
Comment peut-on savoir si le fœtus dans le ventre de la mère est réceptif à la musique ?
En fait, grâce à l'échographie. Les fœtus répondent en faisant des mouvements avec la bouche et la langue, comme s'ils voulaient parler ou chanter. Et en fait, cette observation, elle est visible dès la 16e semaine, donc ça veut dire dès 4 mois. Finalement, la musique, elle joue un peu au chef d'orchestre avec notre cerveau. Depuis son podium, elle coordonne, par les gestes de sa main et de sa baguette, le jeu des neurones. Elle indique à chaque aire cérébrale le moment où elle doit commencer à jouer, avec qui elle doit se coordonner, selon les nuances qu'elle veut obtenir. La partition de cette symphonie cérébrale commence tôt, mais s'écrit tout au long de la vie.
Merci Cléo. Et du coup, c'est quoi, vous, votre Madeleine de Proust ?
Musicale.
On a dit en même temps à 3, 2...
Oui.
Moi, je pense que je l'ai, hein, si tu l'as pas. Hein.
Ah,
moi,
je l'ai.
Intervention. Objection.
Moi, j'ai un album qui est au-dessus de tous les autres et qui m'a Madeleine de Proust. C'est Blurry Face des 21 pilotes. Voilà.
Des 21 pilotes, le...
Les 21 pilotes.
C'est parce qu'en anglais, je ne sais pas le dire. 21 pilots.
Eh ben, très bien, voilà. Tu l'as très bien.
Il faut que je prenne le temps de l'articuler.
Alors, tu vois, moi, c'est du russe, donc ça va être beaucoup plus chiant à articuler. Non, moi, c'est le premier concerto pour piano de Tchaïkovski qui me ramène vers un conte pour enfants qui s'appelle Le petit garçon qui mordait les chiens. Personne ne connaît ça, mais c'est Marlène Jobert qui l'a au moins dit dans un micro un moment enregistré. C'était incroyable. Et vu que j'étais un gamin turbulent, et ben, ça m'a appris à être moins chiant.
Mais moi, j'ai pas bien compris. En fait, c'est un conte qui était sur cette musique-là que t'écoutais.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est un conte qui initiait les enfants à la musique de Tchaïkovski. Donc, t'avais du casse-noisette dedans, t'avais tout plein de trucs. Et notamment, t'avais le premier concerto pour piano de Tchaïkovski qui commence par une intro de zinzin au corps. je sais pas. Moi, ça continue de me renvoyer dans ce truc où j'étais chiant avec, je pense, toute ma famille. Et quand je me faisais engueuler, je passais ça. Et en fait, je devenais tout sage et tout gentil. Parce que c'est ce que fait l'enfant dans le conte. Et je crois que ça m'a juste appris à arrêter de faire chier les gens autour de moi.
T'as été conditionné par la musique, quoi.
De ouf. Bizarre.
Moi, je pense que c'est Étienne Dao avec mon papa. À la fois parce que c'est un mec qu'il aimait beaucoup, mais c'est aussi là-dessus qu'on dansait dans la cuisine quand lui, il préparait à manger. Et donc, il y a presque un côté... genre, je peux pas l'écouter, justement, tellement c'est puissant. C'est trop puissant. Alors que c'est juste... Weekend, hein.
Moi, très sincèrement, j'ai pas une seule Madeleine de Proust. On m'appelle un peu la jukebox.
Elle a toute une boîte de biscuits, ouais, carrément.
Donc, je vais pas commencer à les énumérer au micro, là.
Ah, oh.
C'est vrai qu'Ilona chante en permanence. C'est sa signature.
Et bah moi, je suis franco-libanaise, donc j'écoutais en boucle, je pense, presque tous les jours Fayrouz, et ça me sortait par les oreilles, quoi. Genre, enfin, c'est magnifique, mais je vous promets qu'une musique, quand tu l'écoutes tout le temps, bah ça te rappelle des bons souvenirs, mais des mauvais aussi, t'as juste envie de te claquer la tête, quoi. Donc,
aujourd'hui, tu l'écoutes ou pas? Pardon.
Ouais, ça m'arrive le dimanche, genre bizarrement, tu vois. Genre, en mode, ouais, c'est dimanche, c'est jour familial, bon, on va se farcir Fayrouz aujourd'hui.
J'ai une question qui va un peu diverger, mais est-ce que ça t'arrive en écoutant ce genre de musique d'avoir une odeur qui revient avec?
Ah mais carrément, parce que c'est un peu la musique qu'on mettait justement quand on préparait le repas du dimanche un peu, tu vois. Mmh. Et donc des fois des trucs libanais, mais pas forcément. C'est ouais. Aussi, ça t'associe ça au souvenir de préparer ce repas en écoutant cette musique. C'est un peu quand même les anniversaires, on mettait tout le temps en Nancy Ajra, mais avec mon frère on était saoulés, tu vois. Et tout le temps, mais carrément, ouais, c'est trop bien.
Ouais, non, j'allais dire, en plus, l'inconvénient, c'est que ces souvenirs-là, ils sont pas forcément associés à des souvenirs positifs, donc c'est-à-dire que tu peux te prendre en pleine face un truc auquel t'avais pas forcément pensé rien qu'en écoutant la musique, y a pas de sélection
sur
les souvenirs positifs.
Parce que moi, j'ai des Madeleine de Proust de l'enfance, mais j'ai aussi des Madeleine de Proust de la déprime d'adolescente au fond du gouffre en seconde, en mode non.
Tu viens de dire que t'écoutais à fond Fallon de Evanescence, là.
En vrai, je pense qu'il y a moyen. On peut le dire.
Ouais, c'est un très bon album. Hein.
C'est un très bon album, mais ça chiale, quoi.
Ouais, mais après aussi, il y a les Madeleine de Proust de quand t'as rencontré ton petit mec quand t'étais adolescent et qu'après tu réécoutes en boucle 10 ans plus tard, tu te dis « Ah ouais, j'aimais ce mec, c'était une histoire de ouf », mais pas du tout, en fait, tu regrettes.
Il y a Sacha à la régie qui nous a mis « Jenna Lee ». Et qui a souhaité qu'on le répète, mais c'est vrai que j'aimerais tellement. Moi, j'ai... En fait,
j'aimerais
c'est...
tellement te dire que je n'ai plus peur.
Mais ça, c'est plutôt la primaire, ouais, Jenna Lee.
Ouais, mais Sacha, c'était un peu plus tard.
Mais carrément, mais c'est. Ou alors, moi, j'ai des sons de jeux vidéo. Genre, par exemple, chez mes grands-parents, je regardais mes cousins qui jouaient à la PlayStation 1 à Final Fantasy 8. Et je sais plus, c'était il y a 5 ans que j'ai redécouvert toute la BO. Mmh. Et bah, la chialade, encore une fois. Hein,
mais ça, c'est vraiment le pouvoir des compositeurs qui travaillent sur de la fiction ou rarement sur du documentaire. Hein. C'est rare qu'on soit autant touché, sauf quand il y a un album très thématique qui va sortir. Mais les gens qui travaillent sur la fiction. Ils ont 50% de la narration dans les mains. C'est les compositeurs, enfin, on va parler de grands noms, mais pas que, hein, que ce soit des Hans Zimmer, des John Williams, ou alors dans les moins connus, des Russell Brose, Tony Anderson, etc. Ces gens-là, ils ont un pouvoir absolu dans les mains parce que s'ils ne font pas leur travail comme il faut, ils font échouer 50% de la narration de la fiction qui est en cours. Tu parlais de jeux vidéo avec FF8, moi c'est World of Warcraft. Chacune des extensions de World of Warcraft est accompagnée d'une bande originale. Chacune de ces extensions continue de me foutre les frissons et me hérisser les poils. D'ailleurs, je les écoute pour dormir, ça fait chier toute la coloc dans laquelle je suis. Il y a zéro blague là-dessus. Mais c'est fou de voir le pouvoir, et d'ailleurs c'est un pouvoir qui peut parfois faire consensus auprès du public, parce que ça réunit les gens. Les gens vont faire « Waouh, mais attends, t'as vu ce dernier album de Hans Zimmer ? Dune, incroyable !» Et là, t'as 5 personnes autour de toi qui vont te dire « C'est l'album de l'année. »
C'est en vrai, c'est réel. Parfois, ça juste, ça lie. Je pense que c'est aussi bon. Ça, c'est un des pouvoirs de la musique en général, mais ça lie des générations, ça lie des gens. Et parfois, ça lie autour d'une Madeleine de Proust qui est pourtant censée être quelque chose de très singulier et personnel au final. Donc, c'est assez ouf de voir que il y a une forme de boucle, de cycle qui se fait autour de ça, quoi.
En parlant de BO qui sont géniales, il y a la BO de la série Succession, je ne sais pas si tu la connais, qui est incroyable. Nicolas Britel est un compositeur vraiment
On l'embrasse
magique,
d'ailleurs, hein, il est très très chaud.
il nous écoute actuellement.
Mais bien sûr.
Il doit être touché.
J'espère.
On a dit ça.
Non, en vrai, incroyable cette BO, incroyable.
Mais c'est marrant, tu vois, moi je n'arriverais pas à dire qu'une bande originale de film soit l'album de l'année. Genre, j'ai l'impression que c'est pas possible. Genre, il faut que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, je sais pas, moi, c'est. Alors, peut-être pas pour du film parce que je suis pas forcément très cinéma, je vais me faire tirer dessus. Mais par contre, tu vois, effectivement, une bande originale de jeux vidéo. En 2012, il y a Journey comme petit jeu vidéo qui sort indépendant. Durée de vie 2 heures, donc jouez-le si vous avez une PlayStation ou Steam. Mais Journey, un jeu très simple, et c'est Austin Wintory qui signe la BO qui dure 2 heures, pas plus. Et truc de ouf, cette bande originale, c'est l'album de l'année en termes de musique cinématique auprès des indépendants, j'entends. Hein. C'est pas un Grammy Award non plus, mais c'est une dinguerie. Je vous la recommande d'ailleurs. Et c'est pas que. Enfin, il n'y a pas que ça. Hein. D'ailleurs, il y a des groupes pop qui ont signé des bandes originales de Zinzin. On parle de Daft Punk, qu'on a écouté tout à l'heure avec Tron.
Ouais.
Mais pas que. Hein, 65 Days of Static, qui ont signé la bande du jeu vidéo No Man's Sky. Incroyable. Donc là, ça peut être les albums de l'année aussi. Ouais. Nine Inch Nails, Trent Reznor, avec énormément de bandes originales de David Lynch. Bref, on pourrait citer 15 000 exemples.
C'est The Last of Us aussi qui a une super bande originale.
Merci. Oui, carrément.
Eh bien, merci pour cette discussion et c'est l'heure de se régaler avec le Caps ou pas Caps avec Alix.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Et oui, parce que vous ne le voyez pas si vous nous écoutez. Mais qu'est-ce que j'en ai marre, dis donc, ne serait-ce pas un ukulélé en plastique bleu ? C'est marrant parce qu'on fait une émission de science et musique et le jeu de ce soir sera à la fois scientifique et musical. C'est hyper bien fait. Bon, alors je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il s'agit d'un double blind test. Mais qu'est-ce que c'est un double blind test ? Excellente question. Il s'agit d'un blind test où il faut trouver à la fois la chanson parodiée ou l'artiste. Moi, ça me va si vous me donnez l'un ou l'autre. Et la notion scientifique qui est abordée dans les paroles. Est-ce que c'est clair ? Si c'est pas clair, je peux faire un petit exemple, vous le désirez ?
Vas-y, psycho,
un exemple. Allez. Ah, et bien évidemment, je fais appel à votre tolérance et votre bienveillance parce que moi, je ne suis pas musicienne. Voilà. Alors. Tes muscles te serrent fort et ça, c'est parce que t'es mort. Calcium s'accumule, ça rigidifie tes cellules. Donc ça, c'était rigor mortis, ou la rigidité cadavérique par cœur de pirate comme les enfants. Donc voilà, donc c'est cœur de pirate ou cœur de mort. Bon, bonne ambiance, alors on va y aller. Dernier petit warning, parce que voilà, moi je suis pas musicienne, et a fortiori, j'ai pas particulièrement l'habitude de jouer à la radio, ni devant mes amis. Je sais pas très bien chanter, ni gratter les cordes en même temps. Donc ça va être laborieux, mais ce qui est beau, c'est qu'on parlait d'émotions tout à l'heure, donc là on va pouvoir bien ressentir les choses ensemble. Pour vous, la gêne, et pour moi, la honte. Donc vous êtes... Merci pour votre sollicitude, et c'est parti. Essayez de pas trop regarder mes feuilles aussi, parce que du coup, il y a tout écrit.
On triche pas.
Je suis hyper stressée. Ok. Let's go. C'est un filet soyeux et pas très large qui protège de son mieux les petites larves. Et oui, grâce à lui, elles deviennent des adultes. Il leur permet cette métamorphose culte. Je continue ou vous l'avez ?
Le thème peut-être, ouais.
Bon, tu l'as ?
Bah, c'est genre papillon, cocon, ce genre de truc.
La chrysalide.
Cocoon. Cocon, ouais, cocon.
Un cocon, oui,
ouais,
la chrysalide, ouais, c'est bien aussi.
C'est super.
C'est super.
Et est-ce que quelqu'un a l'artiste ou la musique ou pas ?
Non.
Désolé.
Non.
Il s'agit de Cocoon de Choupi.
Mais ah, Choupi.
Choupi, l'artiste Choupi, s'il vous plaît.
Ou c'est l'inverse, je crois que l'artiste c'est Cocoon et que le titre c'est Choupi. Ah. Vous allez voir, il y a aussi des petits jeux de mots parce que c'est hyper bien fait. Ah, donc oui, je passe à la chanson suivante.
Allez.
Alors, émotion. De l'ilium jusqu'au coccyx, du sacrum jusqu'au pubis. Presque assis lorsque tu... Presque assis lorsque tu... De... Voilà. Presque assis dessus lorsque tu pisses. En latin, son nom c'est pelvis. Entre le dos et les cuisses, les enfants à l'intérieur glissent. Le secret de la vie, la malice. Oui.
C'est le morceau d'origine, c'est Bessa Memucho.
Non,
c'est Si tu n'existais pas, Jodas.
Oui.
Ouais. Putain, mais ça reprend le même thème.
Mais en fait, c'est le problème, c'est que comme je joue pas non plus avec tous les instruments, c'est difficile.
Du coup, on parle de l'utérus ou du vagin, l'un des deux.
Alors, non. On n'est pas loin. Non, on est dans la vagin, bonne zone.
Au moins l'utérus, non.
C'est plus solide.
C'est plus solide.
Attends. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment tu tiendrais debout.
Le périnée.
Ah.
C'est ni tes chevilles ni tes genoux. C'est bien lui ton meilleur atout. Attention. Et changeons de définition. Il est aussi à Arcachon.
Le bassin.
Cette... Oui, putain. C'était Jo Bassin.
Jo Bassin. Bravo. Incroyable, incroyable.
Merci.
Jo Bassin.
Voilà, vous avez celle-là, je vais la passer. C'est juste si on a du temps à la fin parce qu'elle est très dure au niveau des accords. Déjà que là, je glisse beaucoup, ça va pas être top. Allez, on y va. Je parle d'une loi, il y en a trois. Théorie phare de la physique. Trouvons son nom, interaction de l'action, réaction. Qui de nous deux?
C'est dur là.
Attire l'autre. J'avais un peu pitié pour vous.
La théorie de l'attraction.
Qui de nous deux? Pas loin. Attire l'autre.
La gravité, un truc comme ça.
Pas loin, on se rapproche. La force que A exerce sur B.
Pardon, mais on a Sacha de l'autre côté de la vide qui nous met les réponses, quoi, en fait.
Allez, je reprends parce que là, ça va vous aider. La force que A
force
exerce sur B a une égale opposée. Uh-huh. Les deux vecteurs additionnés s'annulent. Qui de nous deux attire l'autre, car personne n'est mieux, car c'est réciproque, c'est réciproque. C'est la troisième loi de Newton, qui est aussi la loi de la réciprocité des forces.
Bravo. Okay. Sur du M, hein, quand même.
Bah ouais. Ouais,
franchement, bravo. Bah bravo, Alice.
Bravo.
Si on a du temps, j'en ai encore, mais sinon je crois qu'on va le faire en off.
Eh ben, merci à tous, merci beaucoup Terence et Yuen.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et merci pour la discussion.
Bah, merci à toi pour tout ça, c'était trop cool.
Mais je vous redis merci encore à vous d'être venus et merci à tous ceux autour de la table. C'est la fin de la Piawar scientifique, on se dit à dans un mois. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et en podcast sur Spotify. Salut à tous.
Et vive la musique.
Faut couper nos micros.
À la prochaine et au revoir et puis faut bon retour, hein. Au revoir messieurs.